Merci Patrick. Bonjour tout le monde, bonjour les adultes, bonjour les enfants. Vous restez avec nous. Il y a une garderie qui est en haut, au deuxième étage pour les bébés, si vous avez besoin. N'hésitez pas à monter. Mais bienvenue à tous, ceux qui sont réguliers ou irréguliers, ceux qui sont en visite. Ça fait plaisir d'être ensemble et de fêter aujourd'hui la fête de Pâques. Je vous invite juste à prier un moment et puis on va ouvrir la Bible ensemble. Merci, notre Père, que, comme ta parole l'a annoncé à l'avance, ça s'est accompli. Jésus a porté le péché de beaucoup d'hommes et il est intervenu en faveur des coupables. Permets que maintenant, Seigneur, par ton esprit, nous puissions réellement écouter ta parole, être attentifs, t'écouter parce que tu nous parles à cœur ouvert, tu nous parles de toi à nous, de manière personnelle. Permet que nous puissions pas seulement passer un bon moment, mais être transformés, être touchés profondément par ces vérités que tu nous annonces. Amen. La prédication de ce matin va se concentrer sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé à Pâques, mais aussi sur les émotions. Parce que vous le savez bien, en tant qu'être humain, les informations ne sont pas seulement des informations. Elles ont un impact émotionnel sur nous. Certaines phrases, quand on les entend, nous touchent profondément. Les paroles les plus déprimantes, j'ai essayé de réfléchir cette semaine, elles sont les paroles les plus déprimantes qu'on puisse entendre. Et je pense que c'est la fin. Ce n'est pas toujours déprimant. Je sais que quand on est chez le dentiste pour une intervention, quand on entend que c'est la fin, on est plutôt heureux. Mais quand on est à l'hôpital pour rendre visite à quelqu'un, on sait que c'est difficile. Et puis que le médecin nous prend à part, enlève ses lunettes et nous dit « c'est la fin ». Ou quand dans un couple, un des conjoints dit « il n'y a plus d'amour ». C'est la fin. Est-ce que ce ne sont pas des choses là qui nous touchent profondément? Mais les paroles les plus encourageantes, les paroles qui nous font le plus de bien, je pense que c'est « Il est vivant ». Vous vous inquiétez, mesdames, parce que vous n'avez pas senti le bébé bouger dans votre ventre un ou deux jours. Vous allez à l'hôpital, vous faites une échographie. Il est vivant. Quelle belle nouvelle. Où votre fils fait un voyage dans un pays dangereux, ça fait une ou deux semaines, vous n'avez pas eu de nouvelles. Et puis quelqu'un vous envoie un message. Je l'ai vu, il est vivant. Qu'est-ce que ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Et peut-être plus belle encore que les paroles « il est vivant », c'est « il m'a sauvé la vie ». Alors j'ai pensé à ces phrases parce que à Pâques, en fait, c'est le moment où on change. C'est une histoire extraordinaire et glorieuse et vraie qui part de « c'est la fin » et puis qui dit « il est vivant » pour qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes puissent dire « il m'a sauvé la vie ». Et c'est un peu ce trajet-là qu'on va faire ensemble à travers les Écritures. On va ouvrir la Bible à Matthieu 28, on a déjà lu un petit peu, on va le relire. Et on va comprendre ce que ça veut dire que Jésus vit. Parce qu'en lui, je vis. Il est vivant et en lui, j'ai la vie éternelle. Pour toujours, ma vie est cachée en lui, attachée à lui. Son sort, sa destinée devient ma destinée. Je vous propose de réécouter la première partie du récit de Matthieu 28, chapitre 28, et puis on va lire un peu plus loin que ce que nous avons entendu tout à l'heure. On a travaillé de concert, Patrick et moi, pour déjà nous familiariser avec cela. Matthieu, chapitre 28. « Après le sabbat, l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui était crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que ses disciples sont venus de nuit, voler le corps, pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est là notre lecture. Alors on va d'abord penser aux faits et puis on va écouter une version alternative, une théorie alternative, avant de parler de l'impact émotionnel de ces choses sur nous. D'abord les faits. Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Et dans le récit de Matthieu, qui est très court, très synthétique, il y a quand même quatre éléments clés qu'il veut souligner pour que l'on sache que Jésus est vraiment vivant. Tout d'abord, il y a cette pierre qui a bougé. Cet élément en lui seul n'est pas significatif parce que voilà, c'est juste une pierre. Mais Matthieu rapporte un mini tremblement de terre qui a eu lieu avant. Et l'ange qui descend comme un coup d'éclair. Je pense que les femmes ont vu ça d'un peu plus loin. Elles n'étaient peut-être pas tout prêtes pour voir cela. Et quand elles se sont approchées, qu'est-ce qu'elles ont vu? Elles n'ont pas vu Jésus sortir de la tombe. Mais elles ont vu que la pierre avait bougé. Et qu'elle pouvait voir à l'intérieur de la tombe que le corps de Jésus n'y était plus. Quelle est l'importance de cette pierre? Cette pierre, évidemment, n'était pas inamovible. C'était une pierre qui pouvait être bougée. Elle était lourde. Mais si on s'y mettait à plusieurs, on pouvait la bouger. Justement, elle avait été bougée pour fermer cela. En allant vers le tombeau, en fait, l'évangile de Marc nous rapporte que les femmes se demandaient comment cette pierre allait être bougée, parce qu'elles voulaient entrer à l'intérieur, apporter ses aromates pour embaumer le corps de Jésus. Mais il aurait fallu plusieurs hommes pour la bouger. Et elle avait été sécurisée. Juste avant notre chapitre, il dit, verset 66, la garde était là et ils ont scellé la pierre. Il y avait des cordes autour. En tout cas, c'était sécurisé pour que ça ne bouge pas. Alors cette pierre tombale, qui est une pierre qui roule, est donc ronde, et puis il y a une rigole qui fait qu'il y a une pente descendante, et ça roule jusque devant. Et donc il fallait un grand effort pour que cette pierre roule dans l'autre sens, pour ouvrir le tombeau. Généralement, on n'a pas besoin d'ouvrir les tombeaux, n'est-ce pas? Et pourtant, ça a bougé. Le tombeau était ouvert, et c'est quelque chose qui doit être expliqué. Deuxièmement, une garde défaite. Dans un scénario normal, quelques gardes auraient gentiment pu bouger la pierre pour les femmes, pour qu'elles puissent entrer avec les parfums, les aromates, embaumer le corps de Jésus, puis ressortir et ils auraient remis la pierre en place. Mais le verset 4 annonce que ces hommes-là qui étaient des gardes, qui étaient de l'armée romaine, parce que c'est Pilate qui donne la permission pour qu'ils reçoivent cette mission, et c'est à Pilate qu'ils doivent rendre des comptes. Ces hommes romains sont tellement saisis, verset 4, qu'ils s'évanouissent de peur. Ils n'ont pas pu empêcher les femmes d'entrer et ils n'ont pas pu empêcher Jésus de sortir. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas, quand on y pense. Il y a eu beaucoup de prisonniers qui ont été gardés. Mais je pense que Jésus est le seul prisonnier, en tout cas le premier prisonnier, à avoir été gardé après sa mort. Il est mort, ça c'est fini. Mais ils ont quand même posté des gardes pour veiller sur le mort, veiller qu'il ne bouge pas. Et même s'ils ont essayé de faire ça, ils n'ont pas très bien fait leur boulot, parce qu'il est parti. Ensuite, un ange confirme, Jésus n'est plus là. Vous voyez comment les éléments s'enchaînent. D'abord, la pierre qui bouge. Ensuite, les gardes qui n'empêchent pas Jésus de sortir et les femmes d'entrer. Et un ange qui parle. Et l'ange est là et il parle au verset 6. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Alors, je sais que c'est difficile de croire aux anges. C'est bien possible si vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne croyez pas aux anges non plus. Néanmoins, nous croyons que quand Dieu a quelque chose d'extraordinaire à dire, quelque chose d'exceptionnel, il envoie un ange comme son messager. Les anges sont des messagers fiables, plus fiables que les hommes. C'était le cas pour la naissance de Jésus, ça avait été annoncé par un ange. C'est le cas aussi pour sa résurrection, un ange est là pour le dire. Et il dit d'abord, Jésus est celui qui a été crucifié. Il reconnaît que c'est le même Jésus. Vous savez que les musulmans ne pensent pas que Jésus, le Messie, a été crucifié. Ils pensent que c'était un sosie, quelqu'un d'autre a été pris à sa place pour être crucifié. Non, Jésus a été crucifié. Et il était mort, oui, mais il n'est pas ici. Et juste pour les aider, l'ange invite les femmes à entrer à voir, voici l'endroit où il était. Vous êtes à la bonne adresse. Oui, oui, c'est bien ici qu'il était. Mais il n'est plus là. Alors dites-le aux disciples, annoncez la bonne nouvelle, il faut qu'ils sachent. Et puis rendez-vous en Galilée, c'est une région à part, dans le nord, parce que d'abord Jésus va apparaître à Jérusalem. Mais ensuite, ils vont le voir pendant plusieurs jours, différents endroits, en Galilée, et ils passeront plus de temps avec lui à part. Vous savez que parfois des gens cherchent des fantômes, ils essaient de voir des fantômes. C'est un endroit où on pense qu'on peut voir des fantômes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, je sais que des gens font des programmes parfois ou se rendent dans des lieux, etc. C'est où ces endroits où on voit des fantômes? Ah, peut-être parfois les cimetières, là où il fait noir la nuit, ou dans une maison fermée. C'est très rare qu'on voit un fantôme près d'un lac où Jésus est apparu, en train de manger son petit déjeuner, et dire voilà, mangez du poisson avec moi. Jésus n'était pas un fantôme qui a été aperçu. C'était un homme vivant, corporellement, qui a été vu plusieurs fois, non seulement par les femmes, elles vont le voir maintenant, mais aussi par d'autres personnes. Alors elles entendent ce message de l'ange et elles y vont rapidement pour le dire aux disciples. Alors Matthieu fait un condensé du récit, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que les femmes vont d'abord trouver les disciples, Jean et Pierre particulièrement, qui eux vont venir voir le tombeau, constater que Jésus n'est pas là. Et puis ils vont repartir et les femmes vont rester un petit peu dans le cimetière. Elles étaient un peu émotionnées par tout cela. On peut comprendre que c'était un peu les montagnes russes, n'est-ce pas? D'abord, il y a cette grande frayeur. Mais après, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit elle-même Jésus. Alors, qui étaient ces femmes? Ces femmes étaient simplement des disciples fidèles. Elles n'étaient pas des apôtres. Elles n'allaient pas devenir des évêques dans l'Église. Mais elles étaient des disciples tout autant que les hommes dans l'histoire. Elles font ce que Joseph d'Arimathée avait fait, regardez le verset 57 du chapitre précédent, Joseph d'Arimathée était aussi un disciple de Jésus, pas un des douze, mais un autre. Et il avait préparé avec Nicodème le corps de Jésus, il l'avait posé dans le tombeau. Alors leur geste ce dimanche matin, à la base, dès l'aube, dès que c'était possible de travailler, après le sabbat, le geste de ces femmes est un geste de dévouement. Je pense que l'équivalent aujourd'hui, ce serait de préparer des fleurs ou de placer une couronne sur le tombeau de quelqu'un, n'est-ce pas? Mais là, elles vont le voir. Et je trouve ça très beau que Jésus a choisi, parce qu'il avait le choix, il a choisi de se faire voir, de se rendre visible, d'abord, pas à Jean ou à Pierre, qui ont accouru au tombeau et qui n'ont rien vu à ce moment-là, mais il a choisi de se rendre visible à Marie-Madeleine et à Marie, la maman du disciple Jacques. Elle qui venait par dévouement à leur Seigneur, à leur Maître. Elle qui pensait, comme la femme qui avait versé son parfum sur le pied de Jésus, le préparer pour son ensevelissement. Au lieu de cela, elles vont toucher ses pieds. Le pied de quelqu'un qui est là en chair et en os, d'un corps bien vivant, chaud. Et elle se prosterne devant lui. Elles l'ont vu. Quelle est la personne que vous avez vue qui avait le plus d'importance? Quand avez-vous aperçu quelqu'un? Vous pouvez dire à votre famille, j'étais là, je l'ai vu. Pour moi, c'était probablement lorsque le roi Philippe est monté au trône. Je n'étais pas dans la salle du trône, mais il avait fait, vous vous souvenez, plusieurs visites dans plusieurs villes. Et lors d'un bain de foule à Bruxelles, j'étais là, près de la Grand Place, il est passé. Alors, il y avait des parapluies, il pleuvait, évidemment, on était en Belgique. Il pleuvait, il était de l'autre côté de la rue, moi j'étais derrière une barrière. Je suis plus ou moins sûr que c'était lui que j'ai vu. Et je peux dire, je l'ai vu. J'ai crié, vive le roi. Quelqu'un d'important passait devant moi. Mais ça, ce n'est rien comparé à ce qu'elles ont vu. Elles ont vu le roi des rois. Et elles n'étaient pas dans le doute en disant, je pense que c'était lui. Peut-être qu'il y avait quelqu'un, en tout cas dans l'ombre, et puis il est parti, on ne sait pas. Elles ont vraiment su que c'était lui. Elles ont ce souvenir, c'est resté à vie, et c'est devenu la base de tout ce qui a été raconté par les disciples après. Mais après avoir dépeint cela, Matthieu nous donne une alternative. Quelle est l'alternative? Il nous annonce dans ce récit la version alternative des faits. Alors c'est très unique. Vous avez entendu qu'il met l'accent sur les gardes. Et dans les autres récits, Marc, Luc, Jean, il ne parle pas vraiment des gardes autant. Les gardes étaient recrutés au chapitre 27, verset 65, et puis des gardes effrayés, chapitre 28, verset 4, et puis des gardes réunis avec les autorités, verset 12, et puis des gardes soudoyés, verset 15. Matthieu est le seul à donner une explication alternative. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Est-ce que ce ne serait pas juste mieux de taire cette version alternative? Mais non, il savait que des rumeurs circulaient, des fake news. Il y avait des complotistes même à l'époque du 1er siècle et il voulait clarifier. Et donc il présente les deux versions pour que le lecteur, nous puissions voir quelle version des faits a le plus de sens. Que Jésus revienne de la mort est extraordinaire. Mais est-ce que c'est plus crédible ce que les gardes vont raconter que des voleurs, des disciples sont venus enlever le corps de Jésus? Alors Matthieu va nous aider à comprendre que ce n'est pas logique ou plus normal de croire leur récit, récit des gardes, que celui de Matthieu. On va regarder les détails de cela aussi. Donc deuxièmement, on a dit Jésus-Christ est ressuscité, ou bien le corps de Jésus a été volé par ses disciples. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi je ne crois pas cela. Tout d'abord, vous savez, il y a des choses qui ne sont pas possibles sur le plan pratique, mais certaines choses qui sont possibles sur le plan physique, pratique, ne sont pas plausibles sur le plan psychologique. On peut dire, ce n'est pas normal, ce ne serait pas réaliste de s'attendre à ce que des gens agissent comme cela. Et par rapport aux disciples, on est deux jours après qu'ils ont vu leur maître violemment mis à mort par les autorités romaines. Qu'est-ce qui aurait fait que, sur le plan psychologique, ils reprennent courage pour dire « Ouais, on va faire un coup, on va aller, on va se battre avec les Romains, on va enlever le corps de Jésus, on va lancer une autre théorie qu'il est vivant ». Non, après avoir perdu leur leader, ils étaient démolis, ils avaient peur. Ils ne croyaient pas à la résurrection même. C'est ce qu'on rapporte dans les évangiles, n'est-ce pas? Mais il y a une autre raison pour laquelle je ne crois pas le récit des gardes, c'est comment est-ce que ça aurait pu arriver physiquement? Des gardes ont été écrasés par qui? Où sont-ils allés? Il y avait quand même des gardes qui étaient devant, qui étaient armés et qui avaient l'habitude de se défendre. Et aucun garde n'a été blessé. N'est-ce pas extraordinaire? Donc il n'y a pas eu de lutte. Il n'y a pas eu de blessure qu'ils pouvaient montrer en disant « Ouais, regardez, on s'est battu, etc. » Et les disciples qui ont dit « On arrive, on bouge la pierre, on laisse les gardes dormir, et puis, avec une foule de pèlerins qui sont à Jérusalem, on va passer à travers la ville avec un cadavre et on va essayer de le planquer quelque part. » Mais personne ne l'a vu. C'est quand même extraordinaire. Et ces gardes, vous ne pensez pas qu'ils avaient l'habitude de faire une garde de nuit et de rester éveillés une nuit? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est plausible que tous les gardes sont endormis au même moment et si profondément qu'il n'y a rien qui puisse les réveiller pendant qu'ils sont au travail? Je connais des gardes de sécurité, ils ne sont pas comme ça. » Et puis ils dormaient, disent-ils. Pourtant, même s'ils dormaient tous, ils savent que c'est les disciples qui l'ont fait. Comment est-ce que tu sais que c'est les disciples si tu dormais? Tu n'as rien vu. Donc il y a plein de contradictions dans ce récit alternatif. Il y a plein de choses qui ne tiennent pas debout, ça ne tient pas la route. Et puis un autre élément qui est quand même important, c'est la motivation. Les disciples étaient motivés par l'envie de dire la vérité. Un moment plus tard, Jean et Pierre, qui étaient sous pression de renier que Jésus était vivant, ils ont dit « On ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On ne peut pas ne pas parler. C'était des témoins qui parlaient de ce qu'ils avaient vu. Tandis que les gardes étaient payés. Et vous savez que si quelqu'un est payé pour dire quelque chose, il va peut-être dire n'importe quoi si on le paye assez. Donc on peut comprendre que des gardes disent ce qu'on leur demande de dire. Mais je ne peux pas comprendre que des disciples disent le contraire, à moins que ce que les disciples disaient était vrai. Et puis il y a un dernier élément, c'est que les disciples étaient persuadés l'un après l'autre. Ils n'ont pas tous été persuadés tout de suite. D'abord les femmes en voyant Jésus, et puis Jean et Pierre qui l'ont vu, et puis Thomas qui ne l'avait pas vu au départ, et puis lui l'a vu. Chacun d'entre eux a été persuadé qu'il était physiquement vivant. Tous les disciples étaient persuadés de cela. Et même quelqu'un qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul, qui à la base était absolument contre l'idée que Jésus était vivant, a commencé à prêcher, oui, Jésus est physiquement vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Et tout ça, c'est extraordinaire s'il n'y a pas eu un événement marquant, un événement vrai, un événement réel qui s'est produit ce dimanche de Pâques. Le message de l'Église, quand on voit le début du livre des Actes qui relate comment l'Église a commencé, le message de l'Église n'est pas « Ah, souvenons-nous de notre cher ami et maître qui nous a enseigné de bonnes choses ». Le message de l'Église, c'était Jésus qui a été crucifié, il est vivant aujourd'hui. Et il est en train de nous parler et il veut une relation avec nous. Ça, c'est la clé absolue de tout le reste, la résurrection de Jésus. Alors, si vous savez qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, si vous êtes disciple et vous imaginez que vous savez que, en fait, c'est Jean et Pierre qui l'ont planqué quelque part, est-ce que vous ne parlez pas d'autre chose ? Parler de ses miracles, parler de son bon enseignement, parler de son exemple, au lieu d'insister tout le temps, jusqu'à votre mort, que Jésus était réellement vivant, ressuscité. Alors voilà pour les faits, voilà pour la version alternative, mais ça nous interpelle. Et je veux parler maintenant des émotions, des réactions que nous pourrions avoir face à ce que nous avons compris. Regardez les émotions, ça en fait montre une certaine progression. Au verset 5, c'est l'ange qui parle, et l'ange dit « Quant à vous, n'ayez pas peur ». Ils étaient saisis de crainte, parce que c'était normal. Les autres avaient tellement peur qu'ils se sont évanouis de peur. Mais l'ange leur dit « Non, vous n'ayez pas peur ». Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que c'est cette crainte ce matin-là. Imaginez que vous êtes là dans un cimetière, c'est très tôt le matin, vous venez de voir des choses extraordinaires, un message bizarre que vous n'attendiez pas à entendre, des apparitions. Vous n'êtes pas vraiment sûr de vous. Tout ce que vous savez, c'est que là, dans le tombeau, il n'y a rien, il n'y a pas de corps. Et donc, en fait, plus loin, il y a même un chagrin. Marie est en train de pleurer de tristesse. Elle se dit, je ne sais pas où ils ont mis le corps de Jésus. Mais alors, quand Jésus vient leur parler, verset 10, il leur dit, n'ayez pas peur. Et là, ce n'est pas parce qu'elles sont terrifiées par Jésus, ce n'est pas comme avec l'ange. Mais je pense que c'est peut-être une peur de le perdre à nouveau. Peur que ce ne soit pas vrai, peur de la mort, il est en train de les rassurer. N'ayez pas peur, maintenant c'est bon. Et nous-mêmes, nous devons aussi faire ce mouvement de la peur de la mort, de la peur de l'avenir, à la confiance en Jésus. Et Matthieu relate aussi, verset 8, une grande joie. La peur s'en va pour être remplacé par la joie. Parce que c'est une bonne nouvelle que Jésus est vivant. On a raison de dire joyeuse, Pâques, parce que la joie vient du fait que Jésus est vivant. La mort n'est pas la fin. Sa mort nous a sauvé la vie. Alors les conséquences sur notre vie sont significatives. Le pire qui puisse nous arriver, c'est quoi ? Nous pouvons mourir. Mais si nous mourons avec la conviction que le pire est déjà passé. Nous allons auprès de Dieu le Père. Et c'est ce que les gens veulent, n'est-ce pas ? Ils aiment l'idée de mourir en paix. Mais nous avons cela, nous avons une raison d'être en paix. Parce que nous connaissons celui qui est passé par la mort et pourtant est sorti victorieux. Et c'est lui qui nous assure de la vie au-delà de la mort. Écoutez ce que dit Romains chapitre 6. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et il enchaîne avec l'obéissance. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une nouvelle vie ? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu. En fait, ça explique que la mort de Jésus n'est pas simplement un fait historique du passé, mais c'est quelque chose dans lequel nous sommes impliqués. Sa mort à la croix, si nous sommes unis à Christ de manière spirituelle, c'est en fait notre mort, nous mourons au péché. Et sa vie, lorsqu'il sort du tombeau et vit éternellement, ça devient notre espérance pour que nous puissions vivre. Nous avons une nouvelle vie, spirituelle certes, mais une vie éternelle. Et donc, quelles sont nos réactions ? Allons-nous être comme les gardes ou comme les femmes ? Les gardes faisaient comme si de rien n'était. On ne va pas parler de la résurrection, on ne va pas parler de ce qu'on a vu, on ne va pas parler de lui. On va juste continuer sans déranger personne. Est-ce que c'est ça, notre vie ? Ou est-ce que comme les femmes et comme les hommes après qui l'ont vu, vous allez l'adorer et parler de lui ? J'ai une bonne nouvelle, je ne peux pas me taire. Jésus est ressuscité. Quelles sont nos émotions aujourd'hui ? Vous savez, on peut s'habituer à tout. On peut même s'habituer à ce que quelqu'un nous a sauvé la vie. Ce serait intéressant peut-être d'échanger et de dire, est-ce que quelqu'un vous a déjà sauvé la vie ? Mais rares sont ceux qui envoient une carte au chirurgien en disant merci. Il y a un an, vous m'avez sauvé la vie. Rares sont ceux qui retournent voir les ambulanciers pour dire merci, grâce à vous, je suis toujours là. Et pourtant, ces gens ont aussi sauvé la vie à quelqu'un. Donc la nouvelle de la résurrection de Jésus, je comprends qu'avec le temps, on peut s'habituer à tout, on peut s'habituer au fait qu'on a la vie éternelle. Et dire, ah oui, d'accord, c'est Pâques à nouveau, voilà, on a la vie éternelle, c'est bien. Et ça nous paraît un peu normal. Mais en fait, aujourd'hui, on devrait saisir à nouveau qu'il y a quelque chose de significatif qui a eu lieu. C'est quelque chose qui compte pour nous. Et donc de retrouver la joie du début, d'être à nouveau soulagé, de dire à nouveau merci pour la paix que Dieu donne, parce que cette résurrection, ce miracle a eu lieu. Je vais conclure en disant parfois, j'ai le sentiment que je n'arrive pas à bien expliquer. Ces choses de l'Évangile sont si grandioses, si profondes, et j'ai que des petits mots pour expliquer ces choses. Je ne me sens pas à la hauteur. Parfois, je me dis que j'ai trop compliqué les choses qui, pourtant, étaient simples. En essayant d'expliquer, j'ai peut-être compliqué trop les choses. Mais au final, il y a une chose qui ressort. Il m'a sauvé la vie. Je peux vous dire, ce Jésus, Fils de Dieu, digne d'être adoré comme les femmes l'ont adoré ce jour-là dans le cimetière, lui dont la mort a porté mes fautes et la punition que mes fautes ont méritée. Plus jamais je ne dois porter cela. Ce Jésus qui a été crucifié, il n'est plus ici. Il n'est plus là, dans le tombeau. Il est ressuscité. Et ça veut dire que ma vie n'est pas perdue. Elle est sauvée. Alors réjouissez-vous avec moi. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce Matthieu qui a soigneusement écrit ce qui s'est passé. Il voulait dire la vérité, il voulait dire l'entièreté du récit. Même si c'est court, il a voulu dire ce que les gardes disaient, aussi bien que ce que les femmes et les disciples disaient. Merci Seigneur que chaque personne qui a vu Jésus a pu alors après l'affirmer. Personne n'a jamais dit le contraire parmi les 12 disciples, les femmes et les témoins qui étaient là à l'époque. Nous voulons simplement te remercier que Jésus est notre espérance, lui qui est notre sauveur, lui qui nous offre la vie éternelle. Alors Seigneur, travaille en nous, convainc-nous si nous avons encore des doutes, aide-nous si nous sommes en difficulté dans d'autres domaines de notre vie, sauve-nous parce que nous avons besoin de ton salut et accorde-nous la joie de ta présence et d'une relation nouvelle avec toi.